Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Annabelle Brouard. À la technique, Florent Bujon.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, l'écho de l'actualité résonne parmi nous. Aujourd'hui, l'économie mondiale sera-t-elle plus verte en 2020 ? Les incendies de forêt n'en finissent plus de ravager le sud-est de l'Australie, ravivant les inquiétudes climatiques trois semaines après l'échec de la COP25 à Madrid. La décennie qui s'achève a été marquée par des vagues de sécheresse exceptionnelles et une accélération de la fonte des glaces et de la montée du niveau des mers. Des catastrophes qui font peser de lourdes menaces sur l'économie et la finance mondiale. Du Brésil aux Philippines, les alertes se multiplient, mais les actes en faveur d'une économie bas carbone peinent encore à suivre les discours. Il est 14h sur France Culture. Belle année à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Quel risque le dérèglement climatique fait-il peser sur l'économie mondiale ? C'est le sujet de notre débat du jour en compagnie de trois économistes et observateurs attentifs de l'actualité économique. À 14h50, on retrouvera la chronique de Catherine André, notre partenaire d'Alternatives économiques. Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel et Sylvie Matelli, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors une nouvelle année s'offre à nous et avec elle vient le temps des bilans. J'ai d'abord envie de vous demander quelle est pour vous l'actualité économique qui a le plus marqué cette année 2019. Christian Chavagneux, on commence avec vous.
Je vais répondre à votre question si vous me permettez juste une petite pensée pour Fariba Adelka et Roland Marshall, qui sont deux chercheurs de Sciences Po qui sont emprisonnés injustement en Iran aujourd'hui pendant que d'autres personnages opulents paient des barbouzes pour échapper à la justice. Fariba Adelka a lancé une grève de la faim, sa santé est en danger alors qu'elle est accusée de rien du tout. Voilà, il faut remettre un petit peu les choses en place. Pour moi, bien évidemment, le grand sujet économique 2019 pour la France, c'est la réforme des retraites. L'abbé Galiani, Jean-Marc connaît bien, disait déjà des économistes libéraux qu'il y a une chose auxquelles ils ne font pas attention, c'est les conséquences sur la vie des gens des réformes qu'ils veulent promouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Le gouvernement veut réformer sans payer. Alors, 2 ans de concertation, peut-être qu'au début, ensemble, petit début de volonté de comprendre qu'il y a des gagnants et des perdants, qu'il faut indemniser les perdants. Et c'est comme ça qu'on réforme un pays. Il y a des perdants et on indemnise les perdants. Donc voilà, pour moi, c'est le grand sujet de 2019 et de celui du début 2020.
La réforme des retraites, grand sujet 2019. Peut-être il y a d'autres grands sujets au niveau mondial, Sylvie Matelli, qui ont retenu votre attention.
Oui, alors moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un double sujet en réalité. Ces jours-ci, la presse qui a mis en avant la réalité de l'essor des bourses partout dans le monde. Et si on regarde cet essor, il a été constant tout au long de 2019. Il s'est pas juste produit à la fin de l'année. Malgré tous les risques et les facteurs déstabilisants, en fait, qui se sont multipliés en 2018, mais aussi en 2019. Et je voulais faire un parallèle avec les contestations sociales, politiques et sociales partout dans le monde, où finalement, à l'inverse, le moindre petit micro-événement, l'augmentation d'un billet de bus ou d'une taxe lambda, fait descendre les gens dans la rue. Et ça, je trouve que ça questionne pour l'avenir, ça questionne pour 2020, cette impression d'un milieu financier qui prospère quoi qu'il arrive, malgré des taux bas, etc., et qui ne semble menacé par rien. La question de la bulle spéculative se pose d'ailleurs également. Et puis à l'inverse, l'extrême sensibilité des populations et des opinions publiques sur tout un ensemble de sujets.
Et pour vous, Jean-Marc Daniel ?
Oui, moi je voudrais revenir sur un événement européen. Juste une réaction sur les deux interventions précédentes, puisque je passe en dernier, donc j'ai la possibilité de réagir. Ce que je trouve frappant, c'est qu'elles sont complémentaires d'une certaine façon. Si la bourse monte, la bonne façon de réformer les retraites, c'est de créer des fonds de capitalisation, parce que comme ça, les retraités bénéficieront de...
Quand elle monte, elle baisse aussi.
Mais c'est pas ce que je viens d'entendre, c'est qu'elle monte indépendamment de la réalité économique. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a une façon de gagner, et les gens ne veulent pas de cette façon de gagner. Donc, il y a aussi des moments où les gens qui s'opposent aux réformes ne réfléchissent pas à la raison pour laquelle ils s'y opposent. Ils sont dans une espèce d'incohérence dans leur opposition qui peut être frappante. Alors, mon point de vue à moi, ce qui est important dans ce qui s'est passé, c'est au niveau européen, c'est que les taux d'intérêt sur la dette grecque grecs sont passés cette année d'abord en dessous de taux d'intérêt américains et puis récemment en dessous des taux d'intérêt italiens. Et donc je pense que malgré tout ce qu'on a pu raconter, la potion brutale qui a été imposée à la Grèce a sauvé la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce, si on l'avait fait sortir de la zone euro, serait à mon avis dans une situation proche du Venezuela. Et maintenant, elle est dans une situation de reconquête de sa dynamique économique. Je pense donc, a posteriori, finalement, les 10 dernières années, puisque ça a duré 10 ans, ont été plutôt salutaires pour la Grèce.
Alors, il y a les événements que vous avez soulignés, qui ont marqué l'actualité économique. Mais à Entendez-vous l'écho, on avait consacré notre première série de l'année au risque de récession mondiale. C'était début septembre. Et à ce moment-là, l'inquiétude était réelle. Qu'en est-il aujourd'hui, Sylvie Matelli? Est-ce qu'on peut dire que le risque est dépassé, que les perspectives pour 2020 sont meilleures?
Je suis pas sûre que les perspectives soient meilleures, surtout que, on va en parler tout à l'heure, mais on a quand même un certain nombre de défis à relever et sur lesquels on avance trop lentement, vraisemblablement. Et au-delà du défi climatique, cette question des contestations sociales est véritablement préoccupante. En fait, comment les réformes, c'est bien, une retraite par répartition, capitalisation, soit, et tirer profit de ce qui fonctionne, pourquoi pas. Mais quelque part, vous ne faites pas de réformes et vous n'avancez pas si vous n'avez pas les citoyens, l'opinion publique derrière vous, et on a l'impression d'un divorce croissant, et pas qu'en France d'ailleurs, partout dans le monde, entre les leaders politiques et les opinions publiques, sauf peut-être dans les pays où les leaders politiques sont les plus inquiétants. Donc c'est, encore une fois, pour répondre à la question, et je contourne pas l'obstacle, c'est ce qui me semble aujourd'hui le plus inquiétant. Comment parvenir à retrouver un consensus, renouer avec des réformes qui parle à tout le monde, qui profite à tout le monde et qui stabilise tous ces mouvements.
On avait quand même des indicateurs macroéconomiques assez inquiétants, en particulier cet été, Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, même si l'économie chinoise marque le pas, on peut dire tout de même que l'inquiétude autour d'une récession globale n'est plus d'actualité.
Récession globale, je suis pas sûr qu'on ait créé à un moment donné une récession globale. En revanche, je pense que le ralentissement économique, moi j'interprète l'économie en général à la lumière des cycles économiques, et je pense qu'on n'est pas encore au fond du cycle. C'est-à-dire que, on le voit bien d'ailleurs, les prévisions trimestrielles sont régulièrement revues à la baisse, et donc je pense qu'on va vers une très faible croissance pour les principales économies développées. On a encore revu récemment les prévisions de croissance du Japon, qui ont été amené quasiment à zéro. Donc on a de nouveau une économie qui, en plus, n'arrête pas d'essayer de faire des plans de relance qui sont totalement inefficaces. Donc ce qui est le plus inquiétant, c'est que je pense que, indépendamment des événements un peu aléatoires qui peuvent arriver sur l'économie mondiale, il y a une tendance au ralentissement qui va se confirmer en 2020 et que les outils de politique économique se révèlent de moins en moins efficaces. Donc on va être obligé de subir cette récession, ce ralentissement.
Ralentissement qui a été largement causé par la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis.
Il y a une inertie des économies. Ce qui est le plus inquiétant et le plus important pour moi, c'est la façon dont on sort d'un ralentissement. C'est-à-dire, l'OCDE dit c'est UVW. U, on reste longtemps en bas. V, on rebondit assez vite. Et W, on rebondit, mais de façon très artificielle, parce qu'on a fait une politique économique très expansionniste. Et au bout d'un moment, on replonge. Et je pense que l'enjeu maintenant des politiques économiques, c'est de chercher le V.
Christian Chavagneux, sur les perspectives économiques.
La France a été bien aidée par les gilets jaunes et par le fait que le président de la République s'est décidé à donner 10 milliards de pouvoir d'achat, donc ce qui a quand même aidé à soutenir la consommation et la croissance en France sans creuser le déficit budgétaire, parce qu'on nous dit à chaque fois qu'on redistribue du pouvoir d'achat en France, une grande partie part en importation et donc voilà, on perd notre croissance. Ça s'est pas du tout produit. L'Allemagne, c'est plus délicat parce que l'Allemagne s'est spécialisée de manière structurelle sur la chimie et l'automobile, qui sont les deux secteurs qui sont en train de plonger complètement. Et au niveau mondial, moi je reste sur la stagnation, cette idée de stagnation séculaire de Robert Gordon, à savoir que on a aujourd'hui des innovations qui ne donnent plus de gains de productivité, on a un investissement privé faible, un investissement public faible, et que l'investissement, c'est ce qui fait la dynamique vraiment de la croissance. La consommation, c'est ce qui fait le gros moteur, et puis les accélérations, les coups de frein, c'est l'investissement, et cet investissement va rester faible. Ça fait déjà 15 ans qu'il est faible, il va encore rester faible quelques années supplémentaires.
Et le sujet central de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est évidemment le défi climatique, et j'aimerais qu'on regarde de plus près d'abord les conséquences économiques de ce dérèglement climatique. Pour commencer, on va partir en direction de l'Australie.
Avec la température qui monte, les bois d'Australie s'assèchent. Il n'y a pas assez de végétation dans d'autres zones pour les protéger et lutter contre les mauvaises herbes. Il y a tellement de liens entre le changement climatique et la hausse des températures, le gouvernement ne peut pas le nier.
Ce n'est pas le moment de débattre. Nous n'avons pas le temps de parler des problèmes importants comme le changement climatique. Bien sûr qu'il existe et nous en parlons. Mais faisons-le de telle sorte que cela ne nous distrait pas de l'urgence de protéger des vies humaines, de protéger des biens et de rendre hommage à ceux qui font tout ce qu'ils peuvent sur le terrain.
Voilà, on entendait d'abord le témoignage d'une habitante de Sydney, suivi du discours du Premier ministre australien Scott Morrison. Morrison qui a également déclaré qu'il serait irresponsable, je cite, de réduire l'industrie du charbon dans le pays. Comment comprendre cette prise de position du Premier ministre australien, Christian Chavagneux, alors même que le lien entre le dérèglement climatique et les incendies qui frappent le pays a été avéré par les scientifiques?
Oui, il faut refaire un petit point. Je pense que c'est Christian de Pertuis, dans un livre récent, l'économiste français, qui a le tic-tac de l'horloge climatique chez De Bock Supérieur, qui pose bien le bilan. La consommation d'énergie mondiale a été multipliée par 9 au XXe siècle. Alors, on a des océans, on a des plantes qui nous permettent de récupérer naturellement du CO2, mais il nous reste encore 40%. Et le tic-tac, cette urgence dont vous venez de parler, on sait que si on veut rester sous 2 degrés de réchauffement climatique avant l'ère industrielle, il nous reste 20 ans. Et le GIEC nous dit plutôt il faut 1,5 degré, et donc il nous reste 10 ans. Donc là, il y a cette urgence. Et en même temps, pour les dirigeants politiques, dans 10 ans, dans 20 ans, honnêtement, ils sont complètement cyniques, et leur cycle politique est très loin de ce cycle économique et climatique. Eh bien, ils repoussent les décisions à plus tard, en France, malheureusement, comme ailleurs.
Et l'industrie du charbon est particulièrement importante en Australie, Sylvie Matelli.
Oui, tout à fait. Et les industries fossiles, en fait, les industries exploitant les énergies fossiles restent extrêmement importantes, avec des investissements qui sont aujourd'hui beaucoup plus lourds est beaucoup plus important dans ce domaine que dans l'investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois qu'on est face à des changements qui devraient être majeurs, qui sont des changements systémiques en réalité, et des gouvernements qui ne sont pas dans le même cycle temporel, mais aussi des populations qui ont du mal à comprendre l'ampleur des changements nécessaires et des réponses qui tardent à venir en réalité.
Et en même temps, les conséquences sont déjà là, par exemple sur l'agriculture aussi en Australie, et pas seulement en Australie d'ailleurs, mais la sécheresse entraîne des conséquences importantes. Il y a une étude qui est parue qui dit que les bénéfices moyens des exploitations agricoles en Australie ont chuté d'environ 22% en moins d'un siècle.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la mesure des conséquences de ce réchauffement climatique ou les mesures des conséquences de ce réchauffement climatique restent encore très, très limitées, très, très, très peu nombreuses. Et par conséquent, on a du mal à véritablement estimer le coût de ce réchauffement climatique, alors même qu'on en voit les effets et qu'on en perçoit les effets.
C'est un coût particulièrement difficile à mesurer,
Oui, je pense que c'est un coût qui est à la fois difficile à mesurer et à la fois mal perçu par la population. Pourquoi je dis ça? Parce que autrefois, quand au 19e siècle ou avant, on vivait au contact de la nature. C'est-à-dire qu'on dit que la nature et l'évolution de la nature impacte considérablement la vie quotidienne des gens, mais on n'est plus dans une société agricole. Il fut une époque où une mauvaise récolte, immédiatement, c'était la disette et les gens le vivaient au quotidien. Là, maintenant, les récoltes sont lissées, il n'y a plus de famine. Vous n'avez jamais de rupture de stock dans les magasins, dans les grandes surfaces alimentaires, dans les pays développés. Donc vous avez un éloignement de la nature, ce qui fait que la nature devient un objet, un être un peu mythifié. On ne sait pas très bien, on ne comprend pas, on ne sait pas quels sont les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et le discours qui est tenu par un certain nombre de gens qui parlent de ces enjeux est un discours qui est alarmiste et qui finit par ne plus être crédible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connu le rapport Meadows, il y a des gens qui ont connu les pluies acides. Moi, j'ai commencé à entendre parler d'écologie avec les pluies acides.
Et le rapport Meadows dans les années
70. Le fait que toutes les forêts d'Europe centrale allaient disparaître à cause des pluies chargées et saturées d'acide sulfurique. Bon, tout ça a été corrigé, il y a eu des réactions, il y a eu une capacité de réaction, et surtout, la population n'a pas été véritablement tenue informée de la façon dont on avait opéré, de la façon dont on avait été capable de répondre, qui avait répondu, et à quel moment la conscientisation s'était faite.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a des innovations technologiques qui devraient permettre de répondre à cette urgence climatique.
critique plus qu'on ne le dit.
Oui, je pense, et qu'il faudrait effectivement qu'il y ait un discours qui soit un discours, qu'on a, non pas collapsologue, en fait, quand on voit des gens qui apparaissent dans les médias, qui sont retirés dans des grottes au fin fond de la Bretagne en disant on en a plus que pour 10 ans, j'ai accumulé des conserves pour essayer de faire face. Et, bon, ça dénature complètement le véritable enjeu. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que on voit bien que la population a du mal à se sentir véritablement menacée au travers de l'échec de la COP, c'est-à-dire que la COP, les gouvernements, et au travers, on parle du Premier ministre australien, quand vous regardez les commentaires dans la presse française, on nous explique qu'il a été pris à partie à cause de son soutien à l'industrie charbonnière par la population australienne. Vous allez sur Internet, vous lisez la presse australienne. Ce qu'on lui reproche, c'est pas de défendre les mineurs.
C'est d'être parti en vacances à Hawaï.
Exactement, c'est d'être parti en vacances à Hawaï. On lui reproche non pas le réchauffement climatique, mais sa désinvolture. Mmh. Parce que la population australienne ne se sent pas, en réalité, aussi concernée par ce qui se passe qu'on pourrait le croire.
Il y a quand même un sondage qui dit que la population australienne est passée de 50 à 60% dans la volonté de lutter contre le réchauffement climatique depuis le début des incendies. Sylvie Matelli, puis Justin Chavagneux.
Je crois que Jean-Marc a abordé quelque chose, la question technologique est quelque chose de central. Si on repense à la révolution industrielle, dans l'inconscient collectif, l'un des éléments clés de cette révolution industrielle, c'est qu'elle a enfin permis à l'homme de dominer la nature. Et donc, partant de là, on est persuadé que par l'innovation et par la technologie, ce qui est probablement vrai, mais on dominera ce changement climatique. Reste à savoir si on n'a pas pris beaucoup trop de temps pour investir dans ce qui va permettre de gérer ce réchauffement climatique et d'en limiter les effets, et si aujourd'hui il n'est pas un peu trop tard, parce qu'il y a une incertitude autour de ces technologies. Ce qui est certain et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un certain nombre de rapports, le dernier en date c'est celui publié par l'OCDE au début du mois de décembre, qui explique qu'en fait réduire les émissions de CO2, c'est pas si compliqué que ça, et on a bien identifié les postes sur lesquels on peut les réduire de manière assez facile et avec des investissements qui restent surmontables. Et pour autant, les choses ne bougent pas. Et ça questionne véritablement.
Et elles ne bougent pas pourquoi ? Parce qu'à court terme, les conséquences économiques ne sont pas assez visibles et qu'on a du mal à prévoir à long terme, Christian Chavagneux ?
Oui, il y a ceux qui, comme Jean-Marc Daniel, comme tout bon polytechnicien, nous disent que la science va nous aider à nous libérer. Bon, c'est un mirage technologique total. Aujourd'hui, le captage artificiel de carbone n'est pas la solution, d'autant plus que le captage naturel de carbone est en train de se dégrader. Nous sommes en train de dégrader le captage naturel de carbone, puisque on se sort des océans comme d'une poubelle et d'un garde-manger, et on est en train de détruire les forêts par la déforestation. Donc les bonnes réponses, c'est les énergies renouvelables. Et le prix n'arrête pas de chuter. Et s'il faut investir massivement, il faut quand même rappeler aujourd'hui que la France emprunte de l'argent gratuitement à l'horizon de 15 ans. Les taux d'intérêt sont même négatifs à l'horizon de 15 ans. Les investisseurs nous donnent de l'argent pour que nous investissions. C'est passer à côté de l'histoire que de ne pas engager une réforme du côté des énergies renouvelables et du côté de l'agroécologie, bien évidemment, qui sont les deux pistes sérieuses qui vont nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique.
Avant d'en venir aux solutions, je voudrais qu'on reste encore un peu sur les conséquences économiques du réchauffement climatique. Ce qu'il faut voir, c'est que l'une des choses qu'on peut constater assez facilement en termes de conséquences, c'est les conséquences des catastrophes naturelles. Et ça pose une question, Jean-Marc Daniel, c'est le fait qu'on n'est évidemment pas égaux sur ce plan, et on a le sentiment que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique aggrave et creuse les inégalités, oui, à la fois entre les pays, à la fois à l'intérieur des pays.
Oui, contrairement au discours très jacquelule que vient de faire Christian Chavagneux, je pense que, effectivement, c'est les pays qui sont les plus avancés sur le plan technologique qui se protège le mieux contre, et c'est la technologie qui protège contre les conséquences du réchauffement climatique. Et donc effectivement, l'inégalité se creuse entre les pays.
Je sais pas où vous étiez, Jean-Marc, l'été dernier. Mais... Il a fait très chaud, y compris en France et aux États-Unis.
Oui, oui, absolument. Mais aux dernières nouvelles, les gens ont supporté ça et ont survécu à ça. Hein. Et donc, je pense. Et en plus, on commence à avoir des lieux qui sont effectivement des lieux climatisés, même si quelquefois on les utilise de façon excessive. Mais je pense que effectivement, il y a une réponse technologique et que les pays qui sont en retard sur le plan technologique sont les principales victimes de ces. Et on le voit bien aussi. Je parlais donc des puits acides. Vous regardez combien il y avait de marées noires en 1970 et combien il y en a eu l'année dernière. Donc vous avez eu une reprise en main, effectivement, du transport de pétrole, une reprise en main des conditions de sécurité. Donc il y a des réponses, comme on l'a dit, il y a des réponses qui sont des réponses assez concrètes. Mais, et là, je rejoins des aspects, si on fait des réformes, il y a des gens qui vont être perdants. Concrètement, les gens qui détiennent les compagnies minières, Mais ils réagissent, parce que si on leur dit on ne n'exploitera plus le charbon, mais ils vont être perdants. Alors la question qui se pose, je rejoins ce qu'on disait sur les retraites, c'est est-ce qu'il faut les indemniser? C'est-à-dire, est-ce qu'une bonne réforme, ça suppose que il faut indemniser tous les gens qui sont perdants? Ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, dire, écoutez, historiquement, vous êtes dans une phase de l'histoire qui est une phase de l'histoire que vous êtes passé à côté de votre destin, et donc c'est terminé pour vous. Mais je crois que c'est ça, c'est un vrai enjeu. C'est, est-ce que l'effort qu'on va demander, on va bien le répartir? Et est-ce qu'on va, au contraire, dire, bon, mais il y a très bien, dans cette histoire-là, il y a des gens qui sont condamnés par l'évolution technologique
et disparaître. Et c'est pour cela que, pour certains, il faut que cette transition soit progressive, et en même temps, on est face à une urgence climatique, Sylvie Matelli.
Et puis on se retrouve comme toujours face à l'agenda politique, c'est-à-dire aujourd'hui les politiques, nos hommes politiques, nos leaders politiques sont nationaux. Or, comme l'a bien dit Jean-Marc Daniel, si la solution était technologique et seulement technologique, ça veut dire qu'il faut aussi investir des moyens colossaux dans les pays du Sud pour qu'ils accèdent à certaines de ces technologies, parce que ce sont eux qui sont potentiellement les plus gros émetteurs à venir, puisqu'ils veulent se développer comme tout le monde, et qu'encore aujourd'hui, les émissions de CO2, alors ça s'est un peu tari en 2019, mais c'est pas encore flagrant pour être considéré comme une tendance lourde. Les émissions de CO2 sont directement liées à la croissance économique et à la croissance économique et en partie au niveau du PIB. Donc bien évidemment, si on veut réduire ces émissions, il faut s'attaquer aussi aux pays qui ont le potentiel de développement le plus important. C'est un vrai sujet. Je voudrais juste, pour revenir sur ceux qui ont à perdre et ceux qui ont à gagner, je regardais avant de venir quelques chiffres, un rapport de l'OCDE sur les investissements qui ont été consentis dans les technologies pour lutter contre le changement climatique. C'était 72 milliards de dollars en 2017. Et en 2018, 650 milliards de dollars ont été investis dans les 1800 compagnies pétrolières mondiales.
Christian Chavagneux, sur ce coût du changement climatique, on voit par exemple sur l'île de la Dominique qui avait été frappée par l'ouragan Maria en 2017, il y avait eu des pertes qui s'étaient élevées à 260% du PIB de l'île. Et alors ce que recommande maintenant le FMI, c'est que ce coût climatique soit intégré dans le budget des pays. C'est la direction qu'il faudrait prendre?
En tout cas, oui, un changement des normes comptables publiques et privées qui tiennent compte de ces désagréments et au-delà de ces désagréments, de ces destructions de capital. Oui, c'est ce que des gens comme Éloi Laurent, par exemple l'économiste Éloi Laurent de l'OFCE, qui écrit beaucoup sur ce sujet depuis plusieurs années, prône. Et aujourd'hui, ça paraît important de le faire, vous venez de le signaler, pour la comptabilité publique, mais aussi pour la comptabilité privée. Aujourd'hui, on a des coûts qui sont externalisés, comme disent les économistes, et dont les prix ne tiennent pas compte. On a un coût de la pollution. On a un coût de la dégradation physique liée aux événements brutaux climatiques géants dont vous avez parlé. Même du côté des financiers, vous avez Lael Brainard qui est membre de la Banque centrale des États-Unis qui dit « Et si demain, ça touchait un gros ordinateur qui sert aux infrastructures de paiement mondial, comment est-ce qu'on ferait ?» Donc on peut toucher physiquement les usines, on peut toucher aussi les ordinateurs et les services. Et si on casse la finance parce qu'il y a un tsunami, parce qu'il y a une marée noire, parce qu'il y a tout ce que vous une canicule qui fait péter les ordinateurs, alors là, c'est toute l'économie locale, nationale, voire mondiale, qui peut être prise à partie.
On entend bien que la transition écologique, c'est un sujet éminemment économique.
C'est qu'on est véritablement dans des sociétés où les risques sont des risques qui sont des risques qui se diffusent sur des très, très larges échelles. Encore une fois, lorsque vous avez... c'est un peu la logique des épidémies autrefois, c'est-à-dire que si vous arrivez à mettre des individus en quarantaine, vous arrivez à contenir le mécanisme. Si vous n'arrivez pas à les mettre en quarantaine, si la quarantaine n'est pas possible. Or, sur la production d'électricité, sur tout un tas d'éléments, la quarantaine n'est plus possible. C'est-à-dire, le risque qui va toucher un lieu va avoir une capacité de diffusion colossale. Et donc là aussi, ça suppose qu'il y ait une espèce de réflexion et d'organisation pour répondre à cette capacité de nuisance indirecte. La deuxième remarque que je ferai sur la façon dont la population perçoit les choses, c'est on est en train de faire le bilan de la vache folle, de l'épidémie de la vache folle. Vous avez un certain nombre de gens qui font le bilan de cette opération. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans à entendre, ou il y a 30 ans à entendre ce qu'on nous racontait, c'est que la population britannique allait être totalement détruite. C'était une maladie qui allait détruire le cerveau. Les gens qui avaient mangé du bœuf anglais, c'était essentiellement des Anglais, et donc on aurait en face de nous une population d'abrutis. Bon, ce n'est pas le cas. En tout cas, je ne pense pas que les Anglais soient des abrutis. Et donc, ça veut dire que tout ce qui a été raconté à cette époque-là, et donc ça met en jeu le principe de précaution, c'est-à-dire jusqu'où on va dans le principe de précaution.
Mmh. On entend bien que la réflexion doit être menée, Jean-Marc Daniel, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de constater, et c'est ce que soulignent les économistes Andrew Oswald et Nicolas Stern, c'est que les publications sont assez rares, les publications des économistes sur le changement climatique. Alors, ils disent que sur les 77 000 articles publiés depuis la création de 9 revues scientifiques les plus importante en économie, il n'y en avait que 57 qui portaient sur le changement climatique. Comment l'expliquer, Christian Chavagneux ?
Je crois que les économistes, malheureusement, ces petits calculs ont été contestés parce qu'ils ont pris la plus grande revue américaine et ils sont aperçus, ils disaient zéro, aucun papier sur le changement climatique et d'autres ont fait des petits calculs, ils en ont retrouvé une dizaine, mais sur la dizaine, on en a retrouvé 3 ou 4 vraiment. Donc OK, on va leur laisser ces 3 ou 4 articles sur les dizaines de milliers qui ont été publiés, donc ça fait 0,01% de la publication des économistes. Je crois que les économistes ont beaucoup de mal à sortir, mais comme toutes les autres sciences sociales, du paradigme de dominant. Et pour le paradigme dominant en économie, la question climatique, on le disait tout à l'heure, est une externalité, quelque chose qui n'a rien à voir avec le fonctionnement pur d'une économie de marché. Intégrer cela, c'est intégrer au-delà des questions qui vont au-delà de la défaillance du marché. C'est le système de consommation et de production qui ne fonctionne plus. Ça demande de changer le logiciel de pensée. Or, quand vous êtes, et ces deux chercheurs ont travaillé sur les principales revues américaines qui donnent le là en matière de réflexion économique mondiale, lorsque vous êtes du côté des économistes dominants, tout ce qui vient contrecarrer cette approche facile et dominante est mise de côté. Et donc, les deux auteurs nous disent, oui, on met de côté tout ce qui vient nous déranger. Et Ekman, qui est un autre prix de la Banque de Suède, enfin, qui est un prix de la Banque de Suède en économie, a publié un papier l'année dernière qui s'appelle « La tyrannie du top 5 » et dans lequel il décrit ses comportements incestueux, dit-il, avec son co-auteur, qui consiste à ne répéter que ce que existait déjà en matière de sciences économiques. Donc, c'est intrinsèquement ça, mon problème. C'est que, intrinsèquement, dans le mode de reproduction de la connaissance économique, on met ça de côté. Je dois quand même signaler qu'en France, on a quand même beaucoup d'économistes qui se préoccupent du changement climatique. Donc ce qui est vrai aux États-Unis est peut-être un peu moins vrai en France.
La question de la répartition et de la charge du financement de la transition écologique, qui est quand même une des questions centrales, n'intéresse pas suffisamment les économistes. Jean-Marc Daniel, vous êtes d'accord avec cela ?
Oui et non, parce qu'il y a quand même eu des rapports qui étaient des rapports assez marquants. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Stern, il avait fait un rapport qui était un rapport qui avait quand même posé les problèmes. C'est-à-dire que les problèmes sont sur la table. Et on voit bien qu'il y a des outils, là aussi, sur le plan de la théorie économique. On parle d'externalité, c'est toute l'histoire de la taxe carbone, des marchés du carbone. Donc il y a quand même des réflexions qui ont eu lieu. Et dire que les économistes ne se sont pas emparés du sujet est un peu excessif. Il y a même eu quelqu'un qui a eu le prix Nobel, donc le prix de la Banque de Suède, etc.
Merci Jean-Marc.
Etc., etc. Donc le prix Nobel de l'économie, William Nordhaus, sur ses travaux de réflexion sur justement le réchauffement climatique.
Oui, rappelons quand même, Jean-Marc, que son modèle nous disait que la solution optimale est un réchauffement climatique de 3,5 degrés. Alors je veux bien lui laisser son petit modèle à
Nordhaus. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que dans le débat, il a mis un certain nombre d'éléments dans le débat en disant que le véritable danger, c'est l'excès. C'est-à-dire, soit de dire, écoutez, on n'y peut rien. Et à ce moment-là, on est dans l'état d'esprit des Byzantins en 1453. De toute façon, les Turcs vont tous nous tuer, donc c'est peut-être pas la peine de s'embêter. Donc, on mène carpe diem, les derniers jours qu'on en profite. Et l'autre situation, c'est de dire, écoutez, tout ça va se résoudre, une sorte de dire, voilà l'enjeu, voilà ce qui effectivement est inexorable, qui va avoir lieu quoi qu'il arrive, parce que un certain nombre d'éléments sont partis, on pourra pas revenir en arrière. Et voilà comment on peut effectivement corriger, amender et atteindre une forme d'optimum. Et je crois que c'est une approche qui est la plus réaliste et la plus sage.
Elements de Deer Hunter, une chanson hantée par l'effondrement climatique selon les Inrock. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Jean-Marc Daniel, Sylvie Matelier et Christian Chavagneux sont toujours avec nous pour parler du verdissement de l'économie mondiale et plus particulièrement de la finance, victime et coupable du dérèglement climatique.
Our societies face a series of profound...
Nos sociétés font face à une série de graves défis environnementaux et sociaux. La conjonction du poids des preuves scientifiques et de la dynamique du système financier laisse penser que, avec le temps, le changement climatique finira par menacer la résilience de la finance et, à plus long terme, la prospérité. Même s'il est encore temps d'agir, la fenêtre d'opportunité est limitée et se referme. En nous fondant sur une meilleure information, nous pouvons enclencher un cercle vertueux, celui d'une meilleure compréhension des risques à venir, de meilleurs prix pour les investisseurs, d'une meilleure prise de décision par les politiques et d'une transition harmonieuse vers une économie bas carbone. En gérant ce qui doit être mesuré, nous pourrons briser la tragédie à l'horizon.
Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, en 2015, qui évoque ses risques climatiques et financiers dans un discours resté célèbre. Est-ce qu'on peut considérer, Sylvie Matelli, que la prochaine crise financière pourrait être d'origine climatique ?
Je crois que c'est un petit peu exagéré parce que que signifie d'origine climatique en réalité? Les fonds investis aujourd'hui sur les marchés financiers pour lutter contre le réchauffement climatique sont quand même bien plus faibles que les fonds investis dans d'autres domaines et sur d'autres actifs. Donc je suis pas sûre que ce soit le cas. Après, de manière indirecte, par un événement climatique majeur qui fasse s'effondrer effectivement une bourse et qui entraîne une crise, oui, c'est tout à fait envisageable. Mais
on entend beaucoup dire quand même que ces risques sont encore sous-estimés. On parle notamment du risque dit d'actifs échoués, c'est-à-dire, alors vous pouvez nous expliquer, Christian Chavagneux, de quoi il s'agit.
C'est là, à mon avis, qui est le risque de crise financière le plus important. Les actifs échoués, c'est si demain les États deviennent crédibles dans leur lutte contre le réchauffement climatique, il va falloir laisser une partie, par exemple, du gaz et du pétrole sous terre. Et les scientifiques nous disent qu'il faudra en laisser, si on veut rester à 1,5 degré, il va falloir en laisser un tiers. Et donc, ces entreprises qui se retrouvent aujourd'hui avec des entreprises pétrolières, gazières, avec de grosses valorisations boursières, parce qu'elles détiennent des réserves importantes, si demain, vous dites, un tiers de ce que vous détenez n'existe plus, à une valeur de zéro, ça va s'effondrer. Toutes les usines qui produisent des moteurs thermiques, ça va s'effondrer. Toutes les usines, les raffineries de pétrole, toutes ces valeurs d'entreprises vont s'effondrer. Or, vous savez que ces entreprises pétrolières et gazières représentent une part importante de tous les indices boursiers du monde entier. Donc, vous pouvez avoir un écroulement des bourses, vous pouvez avoir un écroulement des crédits à ces secteurs, parce qu'on a bien rappelé tout à l'heure que le financement continue à aller très largement et avec des centaines de milliards vers cette industrie pétrolière et gazière. Tout ça peut s'écrouler. Et
ça pourrait être l'équivalent d'une crise des subprimes.
Ça peut être l'équivalent d'une crise des subprimes. Mark Carney, qu'on a écouté, appelle ça le risque de transition. Aujourd'hui, on ne croit pas trop au fait que les États vont mettre en œuvre, mais si demain ils deviennent crédible et alors, ça peut se passer en quelques semaines, en quelques mois, mais ça peut se passer brutalement. Et ça, ces actifs échoués, donc qui ne serviront plus à rien, ça peut vraiment nous créer une crise financière extrêmement forte.
Jean-Marc Daniel. Mais la réponse, encore une fois, j'en avais parlé tout à l'heure, la réponse, Christian nous l'a donnée. Il ne faut pas que dans les réformes, il y ait des perdants. Donc les actionnaires de ces entreprises, tous les gens qui voient leurs actifs disparaître, seront compensés. C'est donc
Mais ça c'est la loi de l'histoire dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Marc. C'est que malheureusement ils ont fait les mauvais choix, c'est des mauvais investisseurs.
Ça concerne aussi la réforme des retraites.
Donc, la réforme sociale, c'est pas pareil.
Il faut savoir dans la vie, est-ce qu'on accepte qu'il y ait des perdants ou est-ce qu'on refuse le principe qu'il y ait des perdants. Et donc le véritable enjeu, effectivement, c'est jusqu'où on considère qu'il doit y avoir des gens qui vont perdre. C'est-à-dire, bon, je pensais aussi au moment où on a fait le libre échange, il y a des gens qui sont allés voir les dirigeants qui supprimaient les droits de douane en disant à cause de vos décisions, mon entreprise qui avait été rentable ne vaut plus rien, donc je suis ruiné.
En l'occurrence, il y a déjà des entreprises pétrolières qui sont touchées par ce risque d'actifs échoués dont on parle.
Il y a des gens qui commencent à dire, écoutez, les décisions que vous prenez sont en train de me ruiner, est-ce que vous avez l'intention? Bon, et donc en France, en 1840, on a dit on ne va pas vous ruiner, donc on n'a pas fait le libre-échange. En Angleterre, on a dit on s'en fout, et on a fait le libre-échange. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut une décision qui soit une décision politique, qui ne soit pas, encore une fois, extrême. Il ne s'agit pas de détruire tous ces actifs, mais il s'agit à un moment donné de dire, il y a quand même une urgence et la procrastination peut devenir encore plus redoutable et plus dangereuse que la ruine de quelques activités. Je crois que fondamentalement, encore une fois, le bon outil, ça reste quand même sur le plan fiscal, la taxe carbone, c'est-à-dire la capacité à réorienter d'une façon systématique et organisée la consommation vers des produits moins carbonés.
Alors, il y a le risque de responsabilité qu'il faut souligner aussi. On parlait du risque de transition. Il faut souligner les actions en justice. Mais d'abord, Sylvie Mattel, vous voulez réagir.
Oui, juste, je pense que le risque le plus important n'est pas tant financier, le risque d'une crise financière, qu'un risque politique. Parce que cette transition redistribue les cartes. On a parlé tout à l'heure de l'Allemagne et des deux industries qui sont directement impactées et qui seront directement impactées par cette transition. Et on commence à le voir. C'est l'un des aspects aussi de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que ce risque politique est probablement, et à l'issue d'un risque politique, vous avez la menace d'une guerre et d'un conflit dur, est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer.
Christian Javagneux, sur ce risque de responsabilité qui
est un risque juridique vraiment est extrêmement fort. De plus en plus, les populations avec les ONG attaquent soit les États, soit les entreprises. Vous avez deux cas emblématiques. Une attaque, généralement, les associations perdent. Hein. Les juges disent c'est pas de mon ressort. Et là, vous avez aux Pays-Bas l'association Urgenda qui a porté plainte devant la justice en disant le gouvernement hollandais s'est engagé au moment de l'accord de Paris de 2015 à réduire les émissions de CO2. Il ne le fait pas au rythme auquel il s'est engagé. Je porte plainte. Et en 2015, le tribunal a dit vous avez raison, et en 2018 la cour d'appel a dit vous avez raison. Donc voilà des juges sur lesquels on fait porter un poids politique extrêmement fort et qui disent aux États vous devez respecter. Et de l'autre côté vous avez cette histoire moi que j'adore de Saul Lula, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un guide péruvien dont le village est situé juste en dessous d'un glacier et à cause du réchauffement climatique le glacier est en train de fondre et va sûrement submerger son village. Qu'est-ce qu'il a fait ce guide péruvien? Il a porté plainte contre l'entreprise allemande RWE en Allemagne. Pourquoi? Parce que RWE produit de l'énergie avec beaucoup de centrales à charbon. Et ce charbon donc produit beaucoup de CO2. Et on a aujourd'hui des calculs d'économistes et d'ingénieurs qui nous permettent de dire que telle entreprise, notamment RWE, par ses émissions de CO2, par ce qui se passe dans l'atmosphère jusqu'au Pérou, permettent de dire exactement combien RWE coûte. Et le guide péruvien a dit « Vous me coûtez 17 000 euros ». Et le tribunal, la justice allemande a dit « Vous avez raison, vous avez le droit de porter plainte ». Donc ouais, vous avez ces actions contre les entreprises, contre les États, et en France, bien sûr, c'est l'affaire du siècle.
Donc la conclusion, l'objectif plutôt, c'est de montrer aux entreprises ou aux banques qu'elles ont plutôt intérêt à rediriger leurs investissements vers des secteurs plus verts, Jean-Marc Daniel.
Oui, je crois que c'est l'objectif. Simplement, je pense que l'outil n'est pas le bon, c'est-à-dire le rôle de la justice n'est pas là pour faire de la politique à la place de la politique. Hein. Je rappelle la séparation des pouvoirs, le rôle de la justice, c'est pas de juger.
Et quand le politique ne joue pas son rôle,
Le politique, il est élu et donc il représente la volonté populaire. Donc, ils sont pas à des juges de se mettre en avant contre une volonté qui est une volonté populaire. Parce que, il faut bien voir, on parle de l'Allemagne, mais Christian l'a rappelé, l'Allemagne, elle fonctionne avec énormément de charbon. Il n'y a plus de mineurs en Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire les dernières mines, la Ruhr, qui était le symbole de l'industrie charbonnière allemande, qui avait été à la pointe de l'industrialisation de l'Allemagne au 19e et au début du 20e siècle, a fermé. En revanche, il y a toujours des mines de lignite. Parce qu'elles sont en Allemagne de l'Est, que l'Allemagne de l'Est est en rébellion plus ou moins larvée contre l'État central.
C'est une source d'emploi.
Bon. Donald Trump, il a été élu par des États, il a fait la bascule dans un certain nombre d'États, en allant voir les mineurs et en leur disant, écoutez, moi je vais sauvegarder votre emploi. Donc je maintiens, ces actions symboliques, aller devant la justice, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est aller devant les mineurs et leur dire, voilà, votre avenir, vous n'allez pas continuer à être mineur, voilà l'avenir qu'on vous prépare. Voilà l'enjeu pour vous. Mais faire des actions qui sont purement médiatiques et qui consistent
à dire... C'est pas l'un ou l'autre, Jean-Marc, c'est les deux.
Oui, mais à mon avis, il est plus important d'aller voir les mineurs que d'agiter les juges.
Alors, il y a aussi des actions, effectivement, qui sont menées par le politique. Il faut parler, par exemple, du fait que les autorités californiennes ont contraint les assureurs privés à continuer à couvrir les résidents de zones à risque. Est-ce que ça, c'est un exemple à suivre dans un contexte général où le secteur de l'assurance est complètement bouleversé, Sylvie Mattelli, justement, par la multiplication des catastrophes naturelles? Donc, on a des assurances qui sont à la fois de plus en plus chères et en même temps de plus en plus de gens qui ne sont pas couverts par des contrats d'assurance.
Je crois qu'au-delà de ce type de mesures, qui restent somme toute anecdotiques dans le contexte des défis que nous pose le changement climatique, il faut que effectivement le politique s'empare du sujet et aille jusqu'au bout d'une stratégie d'incitation. La finance verte aujourd'hui, elle n'existe pas. Et où elle n'existera pas et elle ne s'amplifiera pas s'il n'y a pas des incitations à investir dans ce domaine, peut-être en modifiant les indicateurs de richesse, peut-être en modifiant les indicateurs de performance aussi des actifs financiers, probablement en imposant un certain nombre de règles et de nouvelles règles. Et là, on en est très très loin pour l'instant.
Et peut-être créant aussi des innovations financières. Je pense par exemple à ces obligations catastrophes, Christophe Chavagneux, qui marchent de mieux en mieux,
je pense plutôt à la fois un peu plus de régulation ferait du bien, et là de ce point de vue les banques centrales commencent à s'y mettre. Il y a la Banque centrale des Pays-Bas, la Banque centrale d'Angleterre, et puis le gouverneur de la Banque centrale française nous a dit que pour cette année, pour la première fois enfin, les banques françaises devraient répondre de stress test climatique.
De quoi s'agit-il?
Eh bien, vous avez beaucoup de les banques distribuent des crédits, font des placements sur les marchés financiers. Est-ce que si demain il y a des événements climatiques extrêmes en France ou chez leurs clients, est-ce que c'est comme la crise des subprimes? Est-ce que ça crée un effondrement de la valeur soit des crédits qu'ils ont distribués, soit des actifs sur lesquels ils ont placé leur argent? Est-ce que ça peut mettre la banque en faillite ou pas? Jusqu'où, et si on fait différents tests de scénarios de stress climatique, jusqu'où vous êtes remis en cause ou pas? Il y a deux banques centrales, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui le font. Pour la première fois cette année, la Banque de France a dit qu'on le ferait aussi pour les banques françaises. Mais je crois qu'au-delà de la régulation, il y a une forme de discipline de marché. Ça va faire plaisir à Jean-Marc qui joue, puisque le marché commence peut-être un peu à s'autoréguler. C'est pas encore une tendance lourde, mais moi je repère 2-3 petits signaux faibles comme ça. Vous savez, Aramco, cette grande compagnie pétrolière géante, la plus grande, qui s'est mise sur le marché en disant moi je mets une partie de mon capital sur le marché. On a cru que tous les investisseurs du monde entier allaient dire mais on en veut, donnez-nous ça. Ça a pas du tout marché. Ils devaient être cotés à Londres et à New York, ils sont cotés sur le petit marché local saoudien. Ils voulaient mettre 5% de leur capital à destination du public, ils ont été obligés de mettre 1,5%. On dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les dirigeants politiques saoudiens ont fait pression sur les riches familles pour en acheter. Deuxième petit signal, vous avez Moody's qui a dit ExxonMobil, cette autre grande compagnie pétrolière internationale américaine, eh bien, on va dégrader sûrement la note qu'on leur donne, c'est-à-dire on va les obliger à payer plus cher leur endettement parce qu'ils font pas assez d'efforts pour aller vers le changement climatique. Puis dernier petit point, une étude qui est parue en novembre de l'année dernière, donc vraiment très très récemment, sur près de 700 compagnies pétrolières américaines et canadiennes, en disant voilà, est-ce que les entreprises qui ont beaucoup de réserves de pétrole et de gaz sont bien valorisées, et beaucoup plus que celles qui en ont peu. Oui, mais attention, l'étude nous dit que pour celles qui investissent et qui annoncent investir pour développer de nouvelles réserves pétrolières et gazières, alors ça fait baisser leur valeur. Donc voilà, des petits signaux qui disent que peut-être la finance est en train de changer.
Jean-Marc Daniel.
Oui, non, ce que raconte Christian est important, parce que ça veut dire que dans l'affaire des actifs échoués, on crée une incertitude qui effectivement fait perdre de la valeur à ces compagnies pétrolières. Et donc je crois qu'il y a trois réponses à mettre en avant véritablement si on veut être efficace sur le plan financier. La première, c'est encore une fois de donner une réponse à comment on va traiter le problème des actifs échoués et le problème de tous les gens qui sont dans des activités qui sont à l'origine du réchauffement climatique et dont on doit se débarrasser. Le deuxième élément, c'est effectivement donner véritablement un prix au carbone. C'est-à-dire faire jouer le marché, et pour donner le prix au carbone, il faut que le marché, effectivement, il y ait des marchés des droits à polluer, et donc il y ait...
Ça marche pas, Jean-Marc, concrètement.
Mais ça marche pas.
Pourquoi?
Ça ne marche pas parce que c'est un marché qui devient, si tout le monde est vertueux, c'est un marché qui devient structurellement déséquilibré.
Mais c'est pas pour ça qu'il marche pas
ça
aujourd'hui.
Ça ne marche pas parce que le prix du carbone est trop faible.
Bah oui. Le prix du carbone est trop faible, et parce que, effectivement, pour le faire monter, il faudrait qu'il y ait un acheteur qui le fasse remonter. Donc il manque un acheteur qui soit un acheteur structurel qui permette de faire monter le prix du carbone sur le marché des droits à polluer. Et puis je crois que le dernier outil, c'est effectivement des taxes carbone sur la base de ce prix du carbone, et être cohérent. Là aussi, dans l'actualité, on a souligné parmi les bonnes nouvelles du premier de l'an que le prix du gaz allait baisser. Enfin, je veux dire, un gouvernement qui est un gouvernement qui se veut en pointe sur la lutte contre le réchauffement climatique. Nos autorités, notre président de la République, ne c'est pas Donald Trump, c'est pas le Premier ministre australien. Ils disent pas, écoutez, cette histoire, c'est des contre-vérités, c'est de la propagande, c'est des gauchistes et tout ça. Ils disent, on adhère à ce discours et ils se réjouissent en disant, mais bonne nouvelle, on va vous baisser le prix du gaz.
Alors, donc je crois qu'il y a quand même des mesures qui ont été annoncées.
Annoncer une politique cohérente de taxe carbone.
Plusieurs mesures qui ont été annoncées, notamment le pacte qui a été annoncé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le pacte vert européen annoncé en grande pompe le mois dernier. Est-ce que c'est une étape importante pour vous, Christian Chavagneux?
260 milliards par an sur la table pendant 10 ans, a priori c'est un effort financier conséquent, puisque c'est ce que nous a proposé la nouvelle présidente de la Commission européenne. Maintenant, on a tellement pris l'habitude de ne plus croire à ces promesses. On nous promet monts et merveilles, hein, un Parlement européen plus vert, une Commission européenne plus verte, beaucoup d'argent sur la table, de l'investissement. Mais bon, moi je vais rester sur une position cynique aujourd'hui. J'ai du mal à croire que ces engagements et ces prises de position grandioses vont se traduire malheureusement dans les faits.
Il y a quand même des mesures intéressantes, le veto concernant la conclusion d'accords commerciaux avec des pays qui ne respecteraient pas l'accord de Paris, la création d'une taxe carbone, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Matelli?
Reste à voir ce qui sera effectivement Exactement. Appliqué, parce que c'est vrai que même au-delà des institutions politiques ou de nos hommes politiques, tout le monde a un discours vertueux depuis quasiment 30 ans. Et puis, au final, on parlait tout à l'heure de 1990, qui était quand même le point de référence du protocole de Kyoto. Si vous regardez 1990, c'est pas le Moyen-Âge, hein, quand on y réfléchit. Et si vous regardez les émissions de CO2, elles n'ont cessé d'augmenter partout dans le monde, parce que ça aurait été dans des pays émergents ou en développement. On pourrait se dire c'est lié à leur développement économique, et après tout on est passé par là également, mais partout dans le monde elles ont augmenté. Elles n'ont stagné en Europe, si mes souvenirs sont bons, uniquement parce qu'on a délocalisé un certain nombre d'industries très polluantes, en partie installées dans les pays de l'Est.
Et du fait de la récession.
Croissance économique plus faible.
C'est tout de même pas rien d'afficher la volonté d'une neutralité carbone en 2050, une baisse de 55% des émissions en 2030 par rapport à 1990, alors qu'au départ, c'était seulement 40% qui était prévu, Jean-Marc Daniel.
Oui, mais là aussi, on est au niveau des discours de bonne intention, là où je rejoins c'était déjà dans la stratégie de Lisbonne, de façon plus ou moins, et puis ça a été reconduit dans l'agenda 2020, donc à chaque fois. Donc, vous avez ça, et puis on va créer une économie de la connaissance. Bon, voilà.
Alors, et on gagne 20 ans à chaque fois.
Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète le plus derrière tout ça, c'est que cette action est en train de servir de prétexte, et là, on l'a rappelé, à une montée en puissance du protectionnisme. Vous disiez, on va sanctionner les pays qui ne sont pas compatibles avec les évolutions des COP et les évolutions demandées en termes d'évolution de CO2. C'est-à-dire qu'on utilise maintenant l'affaire du réchauffement climatique, qui est un vrai sujet, qui est un vrai enjeu, pour essayer de réintroduire du protectionnisme. Donc, je maintiens, ce ne sont pas les bons outils, c'est pas le protectionnisme qui est la solution. La solution, c'est un prix du carbone. La solution, c'est effectivement de dire aux gens qui sont dans les actifs échoués comment on va vous traiter.
Est-ce que la solution pourrait aussi passer par une action des banques centrales? On commençait à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait aller, par exemple, vers un verdissement du programme d'achat d'actifs, ce qu'on appelle le quantitative easing, Christian Chavagneux?
En tout cas, c'est tout à fait possible techniquement. Donc, rien ne l'interdit. C'est un choix de valeur. Alors, est-ce que là encore, on fait jouer à des banques centrales et à des techniciens non élus, comme nous dirait Jean-Marc Daniel,
un rôle politique. Je pense que ce n'est pas la mission des banquiers centraux de se substituer à la volonté populaire.
Par contre, je pense que les banquiers centraux peuvent surveiller le risque climatique et donc regarder de plus près la façon dont les banques et les investisseurs institutionnels financent ou pas l'économie verte et l'économie brune. Par contre, oui, la vraie mobilisation doit venir du côté des États. Est-ce que c'est au niveau de la Commission européenne? Est-ce que ce sera une somme d'États plus ou moins engageants? C'est que les Polonais ne veulent pas aller très très loin. A priori, dans le discours, les Français veulent aller plus loin. Les Allemands vont déjà plus loin. Donc aujourd'hui, encore une fois, il faut le répéter, l'argent à 15 ans est gratuit. C'est vraiment passer à côté de l'histoire que ne pas engager une monstruosité d'investissement public pour réaliser cette transition énergétique.
Sylvie Madeline.
Je crois que les politiques, les banques centrales ont vraiment aussi une responsabilité dans leur politique monétaire. C'est que c'est vrai que la période est propice, mais toutes les banques centrales annoncées fin 2018, elles n'ont finalement pas pu concrétiser leur annonce, une remontée des taux ou une limitation du quantitative easing et des politiques monétaires non orthodoxes à un moment où, au contraire, on aurait véritablement besoin de politiques monétaires qui facilitent les investissements et cette lutte contre le réchauffement climatique.
Et alors, on entend beaucoup dire qu'il faut davantage de régulation, mais est-ce que cette régulation ne risque pas de fragiliser les banques, les entreprises, les assureurs notamment, qui expliquent que, justement, les risques et les contraintes qui pèsent sur eux sont de plus en plus lourdes?
Je pense que si on doit mettre en place une régulation, il faut le faire de façon négociée avec les professionnels pour voir, encore une fois, leur capacité à réagir. agir. Hein. C'est les actifs échoués, les mineurs, les banquiers, il faut négocier avec eux. Et je pense que le grand danger, ce serait de croire qu'un monopole technocratique comme la Banque Centrale, c'est la solution. Les monopoles technocratiques, ce n'est pas la solution. De même dire, écoutez, on peut emprunter pour rien, donc allons-y. Une fois qu'on a emprunté, même si on paie des intérêts ou si on ne paie pas d'intérêts, il faut rembourser. Et donc, il faut rembourser sur la base, effectivement, de la richesse qui sera produite. Donc, la vraie question, c'est quelle sera la réalité des décisions que l'on prendra en termes de capacité future des États à rembourser. Donc, je crois qu'il faut être très prudent en la matière. Et il faut rester à chaque fois sur des outils simples et des outils, je maintiens, qui sont des outils dont on sait qu'ils sont efficaces.
Mais c'est qu'ils ne fonctionnent pas, Jean-Marc. Le prix du carbone ne fonctionne pas. Les Français n'en veulent pas. Beaucoup de populations n'en veulent pas. Il n'y a pas de prix mondial du carbone. Ça n'existe pas. Non. C'est bien sur le plan théorique, comme toutes les solutions libéraux, mais ça ne marche pas au concret. Donc, il faut passer à autre chose.
Mais alors, si ce qui marche, ça doit être d'imposer, encore une fois, des dictatures technocratiques, ou si c'est ce qui marche, c'est de dire...
Non, qu'une décision publique, ce n'est pas une dictature technocratique, c'est un choix politique.
Encore une fois, les gens qui sont les mineurs de fond, eh bien, si on leur dit, de toute façon, vous allez perdre votre emploi, mais ils se lanceront pas faire.
D'accord, aidons-les.
Aidons-les.
Est-ce que la solution, c'est pas justement de mobiliser davantage les citoyens? Pendant ses vœux prononcés mardi, Emmanuel Macron a parlé de cette convention citoyenne là sur le climat, avec l'idée de redonner aux citoyens une voix sur les chemins que doit prendre la transition énergétique. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Matelli?
Les citoyens sont dans la même logique, semble-t-il, que ce dont on parlait avec les déclarations politiques, c'est qu'il y a beaucoup de volonté affichée, et puis dans son quotidien, est-ce que les choses bougent vraiment? Alors ça commence à bouger dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de domaines, mais on se heurte aussi à la question des inégalités et à la question de ce réchauffement climatique qui impacte très fortement les inégalités. Vous ne pourrez pas demander les mêmes efforts à tout le monde, et donc là vous en revenez à une question politique, quelle politique vous mettez en place pour assurer une transition qui soit aussi équitable que possible.
Christian Chavagneux, aussi sur ce pacte productif.
C'est tout à fait important, il y a une demande de démocratie qui aille au-delà de voter tous les 5 ans pour le président de la République, et je pense que c'est vraiment un travail très très important qui est fait aujourd'hui. La question reste, qu'en fera le président de la République? Il nous a dit qu'il reprendrait les propositions. Il y a déjà beaucoup, une cinquantaine de propositions sur la table qui vont dans des sens divers et variés, mais qui contribue à créer un consensus, et c'est ça l'important dans la convention citoyenne, c'est prendre des gens qui viennent d'un peu tous les horizons et d'arriver à créer un consensus déjà à 150 personnes, puis on verra si on peut le porter au niveau national, mais moi ça me paraît une des méthodes importantes.
On arrive presque au terme de cette émission, je vous demanderai à tous les trois une rapide conclusion sur ce vaste chantier qui attend l'économie mondiale sur le plan environnemental et sur les défis en particulier en 2020 qui attendent cette économie, Sylvie Matelli.
Les défis en 2020, bien écoutez, la question de la réorientation de notre modèle, la question de la réorientation de la finance aussi, avec peut-être comme point de mire la lutte contre le réchauffement climatique.
Une réorientation qui a commencé mais qui est encore trop lente, Christian Chavagneux.
Pour ce qui est du réchauffement climatique, oui. Par contre, j'ai un petit poil d'optimisme, si vous me permettez, sur un autre sujet. Enfin, on va avoir le résultat de la négociation internationale sur est-ce qu'on arrive à taxer les entreprises du numérique au niveau mondial. Un changement des règles absolument incroyable qu'on n'a pas connu depuis un siècle. En 2018, on nous disait c'est mort. En 2019, un petit papier de 3 pages de l'OCDE qui révolutionne la façon de taxer les multinationales. Est-ce qu'on va arriver au bout de cette négociation? Oui. Est-ce qu'on va la conclure positivement? Là, fin janvier, début février, on va avoir le résultat. Je l'attends avec impatience.
Et cela fournirait un financement justement pour la transition énergétique, Jean-Marc Daniel.
Oui, moi j'ai du mal à me réjouir à l'idée que le fait d'arriver à un accord pour augmenter des impôts soit une bonne nouvelle.
Non. Faire payer les justes niveaux d'imposition des grandes multinationales.
L'impôt est toujours juste quand on est le côté de celui qui le perçoit. Je suis pas sûr qu'il soit toujours aussi juste quand on est du côté de celui qui paie. Donc, pour répondre directement à votre question, deux mots, je pense qu'on rentre dans une période où il va y avoir un ralentissement de la croissance économique pour des raisons conjoncturelles, avec des composantes structurelles qui sont inquiétantes. La stagnation séculaire est peut-être pas là, mais en tout cas, pour le moment, la productivité n'est pas là. Et donc, pour faire passer le discours de l'effort, de la nécessité de faire des sacrifices pour éviter le réchauffement climatique, suppose de sortir du politiquement correct pour entrer dans le concret et dans la négociation.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois, Jean-Marc Daniel, Sylvie Matelli et Christian Chavagneux. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Jean-Marc Daniel, Macron, La valse folle de Jupiter, c'était paru aux éditions Thaïlandais. Sylvie Matelli, Argent sale, À qui profite le crime, publié avec Carole Gomez chez Erol. Et enfin, Christian Chavagneux, les plus grandes histoires de l'escroquerie, qui sortira le 16 janvier aux éditions du Seuil. Un grand merci. Et c'est l'heure de retrouver la chronique de notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Catherine André.
Bonjour Tiffaine.
Vous avez souhaité revenir aujourd'hui sur le mouvement social contre la réforme des retraites.
Voilà, tout à fait. Nous voilà donc en ce 3 janvier 2020, au 30e jour de la grêve contre la réforme des retraites en France. Donc là, je ne vais pas ici détailler ce qui est reproché par les uns et les autres, mais plutôt tenter de souligner quelques soubassements à l'expression majeure de cette colère. Cette réforme semble en effet avoir eu un effet similaire à celui de la hausse de la taxe sur le carburant, qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. La goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Et alors, de quel vase s'agit-il ?
Alors, notamment pour Dominique Méda, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, qui vient de diriger les nouveaux travailleurs des applis avec Sarah Abdelnour et que nous avons récemment interviewé, il s'agit bien d'un trop-plein et d'une peur engendrée par une série de lois qui se sont enchaînées, je cite, depuis 40 ans et plus encore depuis quelques années et qui ont détricoté les protections mises en place en 1945 et renforcées dans les années 1960 et 1970. Comme si la succession récente de réformes marquait vraiment la fin d'un monde et la victoire de ceux qui avaient précisément réclamé une rupture radicale avec celui-ci.
Les gens sont-ils encore attachés à cet ancien monde, Catherine ?
Plus qu'on ne pourrait l'imaginer pour certains observateurs, sachant que ces réformes, pour la plupart, consistaient à réduire les protections ou les dépenses publiques, telles que les ordonnances travail qui ont facilité le licenciement, la récente réforme de l'assurance chômage ou encore cette incapacité à donner à l'hôpital les moyens dont il a cruellement besoin. Pour Dominique Méda, ce que dit la rue, c'est qu'elle tient aux protections que cet ancien monde procurait, et je cite, à la projection dans le futur qu'il permettait, à la solidarité qu'il organisait, le nouveau monde apparaît non seulement trop brutal, trop individuel, mais aussi trop injuste. Pour beaucoup de gens, en effet, les conditions de travail sont devenues totalement intenables.
Et c'est ce qui explique la réaction à l'annonce de l'âge d'équilibre à 64 ans.
Oui, sans doute. Selon l'enquête conditions de travail de la DARES, le service statistique du ministère du Travail, 52% des personnes estiment en effet ne pas pouvoir, je cite, faire le même travail qu'actuellement lorsqu'ils auront 60 ans. Le travail s'est non seulement intensifié, le contrôle et la surveillance se sont renforcés, on assiste à des formes de déshumanisation du travail qui apparaissent un peu partout, le management par l'algorithme par exemple, ou encore le voice picking via ce casque à commande vocale dont sont équipés les manutentionnaires qui vont chercher les colis dans les entrepôts. Tout ça fait des ravages. Sur 45 millions de contrats de travail créés en France chaque année, il faut savoir que 40 millions sont courts. 83% d'entre eux durent moins d'un mois. À la faveur d'une législation favorable, on compte par ailleurs 838 000 micro-entrepreneurs économiquement actifs qui ne relèvent pas du salariat. Il faut le rappeler, les revenus mensuels selon l'INSEE en 2016 s'élevaient à 46 euros seulement. Ne parlons même pas de ces nouvelles armées de travailleurs du clic qui n'ont pas de statut légal. On en compte, selon une étude de Télécom Paris Tech et du CNRS, plus de 260 000 dans l'Hexagone, sans statut, sans aucune protection sociale. Donc au-delà de la question de la réforme des retraites, c'est donc tout le travail qu'il faut revoir, stopper la dégradation des conditions de travail tout en réduisant les inégalités et peut-être, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui, la transition écologique peut être une aubaine à cet effet.
Merci beaucoup Catherine André, on peut retrouver votre chronique sur franceculture.fr et en podcast. Told you not to worry. Maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show. Someone, 'cause I might break. On se quitte avec Illo Milo de Billie Eilish. Et à noter que le numéro de janvier d'Alternative Économique est consacré à la face cachée du numérique. Je cite le titre « Pollution, la face cachée du numérique ». La semaine prochaine, à Entendez-vous l'écho, on consacre une nouvelle série au néolibéralisme, à ses penseurs et à ses détracteurs. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.